Studio Tamani, voici nos informations en français.
Et c'est avec Mariam Maïga à la présentation, Nouhoum Djiré assure la technique. Voici les titres. Difficile de trouver du sucre dans plusieurs quartiers de Bamako. En plus de la rareté du produit, son coût est également élevé sur le marché. Consommateurs et commerçants détaillants déplorent cette situation. Les examens du brevet de technicien de santé prennent fin ce vendredi et jusqu'à présent, aucune solution n'a été trouvée pour les candidats exclus. Le dossier du jour s'intéresse aux agents de joueurs. Leur apport est capital dans la carrière d'un joueur. Mais qu'en est-il de cette collaboration? Des éléments de réponse dans cette édition. Monsieur Dam, bonjour et bienvenue. Je vous le disais donc dans le titre, depuis quelques jours, une pénurie de sucre est constatée dans plusieurs quartiers de la capitale et à l'intérieur du pays. Les consommateurs font le tour de plusieurs boutiques et marchés pour avoir le produit et à des prix exorbitants. Les commerçants reconnaissent cette cherté du prix du sucre qui s'explique selon eux par sa rareté sur le marché. Le sac de sucre de 50 kg est aujourd'hui vendu entre 37 000 et 40 000 francs CFA au lieu de 27 000 il y a seulement deux semaines. Une situation intenable pour certains consommateurs. Suivons ce reportage de Mamadou Samasekou.
À Bamako, le prix du sucre continue de grimper. Vendu entre 500 et 650 francs il y a quelques semaines, il a aujourd'hui atteint les 800 francs dans certains quartiers. Yaya Djara est commerçant détaillant sur la rive droite. Il explique cette hausse par l'augmentation des frais de dédouanement.
Actuellement, le sucre est très cher, car nous vendons le kilo à 750 ou 800 francs CFA. Nous prenons le sac à 36 000 francs CFA. Ils disent que c'est à cause des frais de dédouanement, sinon il n'y a plus d'embargo sur le pays.
Très mécontent de cette hausse, les deux clients rencontrés en ce lieu demandent aux consommateurs de tout simplement cesser d'acheter le sucre et trouver une autre alternative.
Quand les produits sont chers, la population doit revoir ses achats afin de pousser les commerçants à baisser les prix. Plus on achète, plus ils augmentent le prix. Donc si les clients se font rares, ils trouveront une solution.
Au lieu de dépenser des milliards chaque année pour la subvention de riz, de sucre, orienter ça là dans la production de canne à sucre, on peut vraiment gérer ces problèmes-là.
L'association libre des consommateurs maliens Alcom demande aux autorités de sévir pour ramener le prix du sucre au prix plafonné de 500 francs le sucre local et 600 francs l'importé. Pour Abdoulaye Balo, président d'Alcom, cette augmentation est injustifiable puisque le sucre est produit au Mali avec des matières subventionnées.
Le consommateur ne fait que nous appeler à longueur de journée. On sait que la crise est mondiale. La canne à sucre qui est cultivée à Bougabougou et à Senibala, si c'est bien structuré, bien organisé, ce sucre-là peut suffire le Mali. Parce que ce qu'on voit, le sucre qui est produit au Mali, ce sucre-là sort du Mali. Il faut qu'on sorte dans ça maintenant. Que l'État valorise Bougabougou et Senibala pour qu'on puisse avoir ces produits-là à moindre coût.
Ni la Direction générale du commerce et de la concurrence, ni la Fédération des importateurs du sucre du Mali n'ont souhaité réagir sur cette hausse de prix du sucre.
Et rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. La commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali a organisé mardi une séance d'écoute sur l'élaboration de l'avant-projet de la constitution. Objectif, recueillir les contributions et préoccupations des partis politiques. Mais à l'issue de la séance, les formations politiques restent divisées sur la nécessité d'une nouvelle constitution. Le parti Yelema juge utile de rendre plus rigide la constitution. L'ADEMA PSJ de son côté met en garde contre les conséquences d'une quatrième république. Les détails avec Imirana Kilumaiga avec la voix de Lala Tangara.
L'ADEMA PAJ s'oppose à une nouvelle constitution qui mènera le pays à l'inconnu. Le parti de l'Abeille pense que des dispositions de la loi fondamentale peuvent être améliorées, corrigées ou amendées, sans remettre en cause la substance de l'actuelle constitution. Yaya Sangaré, secrétaire général du comité exécutif de l'ADEMA, est porte-parole du parti.
Les amendements, les corrections, les améliorations pourront être apportées, quelles qu'elles soient, ne doivent pas aboutir pour nous à une refonte totale de la constitution qui est en vigueur. Nous ne sommes pas pour aller vers une quatrième république. qui peut chambouler tout. Nous ne savons pas dans quelle aventure on va s'engager. Maintenant, vouloir aller en 1995, il faut changer de régime.
Le parti Yelema trouve nécessaire de rendre la constitution de 1992 en vigueur, plus rigide. Cela en lui apportant des changements importants. Le parti de l'ancien premier ministre Moussa Mara regrette que des simples lois arrivent à abroger des dispositions constitutionnelles. Toutefois, Yelema dénonce des failles dans la mise en place de la commission. Youssouf Diawara, président du parti Yelema.
Il y a des volets aujourd'hui qu'on n'arrive pas à faire, notamment la Cour des comptes, qui est aussi une disposition sous-régionale, qui nécessite aussi une évolution. On est dans la dynamique de la création d'une nouvelle chambre. Tout ce qui est question mérite une évolution. Et même dans la pratique démocratique, on se rend compte sur certains aspects qu'on a des difficultés. Et par exemple, quand il y a la vacance des pouvoirs, les délais d'organisation des échéances posent énormément de problèmes.
Selon le président de la commission, cette séance d'écoute vise à avoir l'inclusivité dans le processus de rédaction de ce projet de nouvelle constitution. Les partis ont jusqu'au 8 août prochain pour apporter leur vision sur le projet. Déjà, 11 formations politiques sur les 271 que compte le pays ont déposé par écrit leur contribution auprès de la dite commission.
Un reportage de Imirana Kilumaiga avec la voix de Lale Tangara. Parlons cette fois-ci de sécurité. Les forces armées maliennes ont repoussé hier 3 attaques terroristes sur leurs positions à Sévaré, Sokolo et Kalumba. Dans un communiqué publié, l'état-major des armées affirme que le bilan de ces attaques est de 15 soldats maliens tués et 3 civils et près d'une cinquantaine de terroristes neutralisés. Des armes, des munitions et des engins roulants ont été également saisis. Toujours selon l'état-major, les attaques de ces derniers jours prouvent à suffisance la déroute et l'agonie des groupes armés terroristes sur notre territoire. Sur un tout autre sujet, plusieurs cas d'assassinat de femmes au foyer ont été constatés au cours de ce mois de juillet à Bamako. Pour des observateurs, ce phénomène qui prend de l'ampleur mérite une réflexion pour trouver des solutions. C'est là afin d'amener la tranquillité dans les foyers. Aïssata Diarra revient sur quelques solutions évoquées dans le grand dialogue de Studio Tamani du mardi dernier.
Pour mettre fin à ces violences, l'accent doit être mis sur la prévention des VBG, a préconisé Kumbaba, experte en genre.
Ça fait plus de 10 ans qu'on est dans ça. On a tout vu. Des choses même qu'on ne voit pas dans les films. Nous devons ouvrir les yeux. Donc ne disons pas, supporte ça. Nous devons aussi voir l'équilibre. Tant on dit, la police ne peut pas rentrer chez toi quand elle entend les cris, ça serait violation de domicile. On a aussi dans notre code non, quand on dit non-assistance en personne en danger. Donc entre deux mots, on choisit le moins de mal. Il faut qu'on éduque nos enfants à bas âge. Et il faut qu'on arrête de penser que la femme n'est rien qu'une femme, mais qu'on arrête d'élever nos garçons comme s'il vaut mieux que les filles.
Quant à Moussa Guindo, expert en genre, il estime qu'on doit se focaliser sur la sensibilisation, mais aussi sur l'application des sanctions prévues par la loi en la matière.
Trop, c'est trop. Il faut arrêter. Parce que la femme, elle n'est pas faite pour ça. L'État doit prendre des mesures. Et il faut sévir. Que quelqu'un qui prend à commettre l'acte, qui sort avec 5 ans, 6 ans de prison, ce n'est pas normal. Il faut revoir cela. C'est de sensibiliser, c'est de faire comprendre aux gens qu'on court un grand danger. Être dans un couple, c'est être au paradis, en paix avec ta conscience, en paix avec ton mari. Mais s'il y a des menaces, il est bon aujourd'hui d'aller vers une loi particulière pour les femmes.
Au-delà de ces solutions, Alachi Maiga de l'association Solidari 223 propose l'implication des familles pour mieux protéger les femmes.
Pour moi, la première protection, c'est la femme. La famille doit dénoncer. Les victimes, dès qu'ils se sentent en danger, il faut qu'ils se sauvent. C'est ça la réalité. Il faut que les femmes se rendent compte à quel moment elles sont en danger.
Monsieur Maiga invite également les ONG travaillant sur des cas de VBG d'être plus présents sur le terrain pour aider les personnes concernées.
Cap à présent sur les examens de fin d'année, 4e jour des épreuves du brevet de technicien de santé. Aucune solution n'a été trouvée pour le moment pour les candidats exclus de cet examen. Les responsables de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique affirment avoir mis en garde plusieurs fois les écoles privées qui ne sont pas en règle. Les candidats exclus, quant à eux, dénoncent ce qu'ils appellent une injustice. Draman Maiga pour plus de précisions.
Elle nous a donné les fiches, on a même distribué les sujets. Elle nous a fait sortir.
On nous chasse de partout, on ne sait même plus où aller.
Et ça sera réglé dans 10 mois.
Je suis très très mécontent pour ça. Parmi nous, il y a des gens vraiment qui ont payé cet argent avec beaucoup de difficultés.
Ces étudiants disent être injustement chassés des salles d'examen. Mais du côté des autorités scolaires, on explique que ces candidats ont été écartés des salles d'examen en application des règles. Bakary Camara, directeur général de l'enseignement supérieur supérieure et de la recherche scientifique.
Ce n'est pas une première. Lors de la délibération de l'année dernière, on s'est rendu compte que certains établissements avaient fait composer avec d'autres établissements qui avaient l'autorisation. Mais nous avons demandé aux promoteurs de faire tout possible de se mettre en règle. Un an après, on s'est rendu compte qu'ils ne sont pas en règle.
Les élèves ainsi que leurs parents ont aussi leur part des responsabilités, ajoute-t-il.
Il faut qu'ils cherchent à savoir si l'établissement privé est en règle. Et là, comment le savoir? Il faut venir à la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est la sous-direction chargée des écoles privées. On va vérifier ici si l'établissement est en règle ou non.
Cet examen qui concerne les établissements de santé prendra fin ce vendredi 29 juillet. Il sera suivi des épreuves d'agro-pastoral le lundi 1er août 2020. Mais il faut noter que toutes nos tentatives pour faire réagir les promoteurs des écoles concernées ont été vaines.
Du sport, les conseillers ou managers sont très sollicités dans la réussite de carrière d'un joueur. Ils sont communément appelés agents de joueurs. Ces acteurs jouent à la fois le rôle de confident et d'inspirateur pour le joueur. Mais cette collaboration n'est pas sans difficulté selon les deux parties. Qu'est-ce qu'un agent de joueur? La réponse avec Hamset Touré.
Être agent de joueur requiert une grande disponibilité, un engagement et une bonne formation, expliquent les acteurs du domaine. Famakan Dambélé, agent de joueur, président de la commission ad hoc du football féminin au Mali.
C'est l'agent de joueur même qui s'occupe même de la vie matérielle et morale du joueur. Ça dit, tout passe par l'agent de joueur. Parce qu'un joueur actuellement ne peut pas dire s'il n'est pas attiré d'un agent de joueur. Pour être agent de joueur, intellectuellement, il faut être là. Il faut être même un juriste dans la rédaction des contrats. C'est l'agent qui s'occupe de tout ça. À la matière, si tu n'es pas un spécialiste vraiment, donc tu peux avoir beaucoup de pièces dans le contrat.
L'apport de ces agents est capital dans la carrière, affirme le capitaine du stade malien de Bamako, Ali Dessé Sissoko. Cependant, il énumère aussi des difficultés.
La plupart de ces agents, on s'est eu à travers le football déjà, mais à partir de là, il y a un lien qui s'est créé entre nous, c'est des liens amicaux. Ils nous poussent vraiment à aller de l'avant, à travailler encore plus, à croire en notre talent. Avec le football, on ne peut se procurer des contrats sans l'aide des agents, vraiment. Parfois, il y a des agents, ils ne voient que ce qu'ils gagnent, quoi. Donc, ça pose problème des fois.
Le métier nourrit bien son homme, mais les contraintes sont multiples, poursuit Famakan Dambélé.
Souvent, bon, tu peux être avec un joueur qui ne respecte pas les clauses du contrat. Souvent, tu trouveras un joueur avec un agent. Donc, il tente aussi d'évoluer avec un autre agent. Et puis, aussi, les clubs aussi ne respectent pas les clauses du contrat du joueur. Ça aussi, ça peut poser des problèmes.
Rappelons qu'au Mali, le secteur des agents de joueurs n'est pas régulé. Ceux qui évoluent dans le domaine ne dépassent pas une trentaine, selon des spécialistes.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était la présentation Mariam Maïga. Nous vous direz à assurer la technique. Merci de la confiance renouvelée au quotidien. Ne décrochez pas car dans un instant, vous aurez la version en bambara avec Juliette Koulibaly. Le taux de prévalence de l'hépatite B est estimé entre 9 et 13% et celui de l'hépatite C entre 1 à 3% au Mali. C'est du moins ce qu'affirment des spécialistes de la maladie. Pour eux, il est nécessaire que chaque personne fasse le dépistage de l'hépatite une fois par an. Ils indiquent qu'il y a trois types d'hépatite, l'hépatite A, B et C. Ces spécialistes de la santé invitent les parents à faire vacciner leurs enfants contre la maladie. En prélude à la journée mondiale de lutte contre l'hépatite, célébrée le 28 juillet de chaque année, Abou Akline Ag Mohamedine Yattara s'est entretenu avec professeur Moussa Diarra, chef du département de médecine et de l'hépato-gastro-entérologie du CHU Gabriel Touré.
L'hépatite, c'est une inflammation du foie qui va entraîner une destruction des cellules du foie. C'est dû à des virus. Ces virus, au nombre de 5, on appelle ça les virus alphabétiques. Il y a le virus A, il y a le virus B, il y a le virus C, il y a le virus D, il y a le virus E. Parmi ces 5 virus, il y a 3 qui posent problème. C'est des virus qui peuvent entraîner la cirrhose et puis le cancer du foie. Donc ces virus, c'est le virus B, le virus C, le virus E.
Quels sont les symptômes de l'hépatite?
À la phase aiguë très généralement, on a ce qu'on appelle le syndrome pseudo-grippal. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent qu'ils font la grippe, donc ils vont avoir de la céphalée, des douleurs articulaires, musculaires et une fatigabilité. Ce sont ces signes que ces gens peuvent présenter. Et à cette phase-là, très souvent, que ce soit la population ou certains médecins d'ailleurs, ils pensent tout de suite au paludisme. Après cette phase qui va durer environ une semaine, 10 jours, on voit une coloration jaune des muqueuses et des tégumes, les yeux. Quand ça apparaît, tout de suite les gens pensent en ce moment à l'hépatite.
Est-ce que l'hépatite est contagieuse?
Oui, l'hépatite est contagieuse. Si on prend les virus un à un, le virus A, la transmission se fait par la voie orale. C'est la même chose que le virus E aussi. Maintenant, les autres virus, hein, le virus B, le virus D, le virus C, la transmission, c'est la voie sexuelle, le sang et les dérivés, et puis la transmission de la mère à l'enfant.
Est-ce qu'il y a-t-il un traitement pour guérir de l'hépatite?
Le virus A, le virus E, très généralement, la guérison est spontanée. Pour le virus C, on peut guérir. Hein, le médicament, ça coûte cher. Donc, en 3 mois de traitement, on peut guérir. Maintenant, le virus B, ça pose problème. Parce que le virus, quand tu rentres dans l'organisme, c'est définitif. Mais il y a des traitements très efficaces qui empêchent le virus de se multiplier.
Vous venez de dire que le médicament est un peu coûté. Est-ce qu'on peut avoir une idée du prix du médicament?
Bon, pour le virus de l'hépatite B, le traitement, dans le temps, la boîte coûtait 120 000. Aujourd'hui, avec la subvention de l'État, nous avons ce même produit à 3 000 francs. Maintenant, pour le virus de l'hépatite C, le prix du produit, ça varie entre 125 et 150 000.
Comment éviter cette maladie?
Il faut l'hygiène, quoi. Virus A, virus B, l'hygiène. Maintenant, les virus B, C, D, pour les éviter, il faut utiliser des matériels qui ne sont pas souillés. Les rapports sexuels protégés, parce que la transmission se fait par voie sexuelle. Il ne faut pas réutiliser une aiguille qui a été utilisée. Il y a des gens qui se promènent pour couper les ongles avec les coupes-ongles. Donc, ils font ça pour chez plusieurs personnes. Donc, il faut éviter ça.